Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la température. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui comme d'habitude. On va revenir sur cette nouvelle donc qui est en une de nos bulletins de nouvelles. Vous avez vu là que le gouvernement de la CAQ a décidé là, d'investir un peu plus dans les écoles pour enfants qui ont des enjeux comme l'autisme ou des déficiences intellectuelles. On va revenir là-dessus nous tout à l'heure avec l'instigatrice de la fondation Les Petits Rois qui est mère d'un jeune garçon Henri Louis, qui est adulte aujourd'hui et qui, grâce à sa mère, bénéficie de soins, mais pour qui c'est toujours difficile d'en avoir et qui se bat depuis des années pour faire en sorte que son fils en ait des soins très spécialisés. On aura également Patricia Paquin avec nous, que vous connaissez bien, maman de Benjamin, qui pourra témoigner également du vécu des parents qui ont des enfants, qui ont des enjeux de déficience intellectuelle ou d'autres. Ça peut être des troubles d'adaptation, ça peut être tellement de choses aujourd'hui. Mon collègue Paul Arcand là, parlait du stress qu'on met sur nos enfants à l'école en ce moment d'examen. Puis je sais que vous en avez sans doute vous aussi, j'en ai qui sont en ce moment en examen. Puis c'est vrai qu'on met une certaine pression. Il y a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui font des crises de panique, font de l'anxiété. Ça aussi, ça demande des soins particuliers, malheureusement. On s'est beaucoup déconnecté de tous ces besoins-là dans les écoles. On s'attend à ce que l'école enseigne, point. C'est avant peut-être, plus aujourd'hui, plus avec la pression, le stress qui nous entoure. On va également revenir sur cette fameuse histoire, je ne sais pas si vous avez vu ça, le ballon chasseur qui serait de l'intimidation déguisée. Alors, en deuxième heure de mission, je vais vous poser la question. Avez-vous déjà été traumatisé, vous, dans l'enfance, par un ballon qui s'est acharné sur vous? Nous en parlerons tout à l'heure. Pascal Wilhelmy va être avec nous, Madeleine Pilote-Côté également. Mais en première heure d'émission, c'est un sujet, évidemment, qui touche beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont malades au Québec ou reçoivent un diagnostic de maladie grave. Vous avez peut-être vu l'histoire dans les médias hier de Marc-Alexandre Gaudreau qui souffre d'un cancer incurable au cerveau. Il a eu le diagnostic à l'âge de 19 ans. Et aujourd'hui, il doit affronter cette maladie qui est quand même assez épouvantable, vous en conviendrez, et n'a pas d'aide financière. C'est une situation extrêmement dommage, complexe et navrante. Mais malheureusement, au Québec, quand tu es malade, tu t'appauvris. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Je vous parlais de mon amie Joanne Fontaine qui malheureusement nous a quittés. Mais Joanne s'était appauvrie considérablement. Elle avait dû vider ses RER. C'était, si elle n'avait pas eu un conjoint qui avait certains moyens, ça aurait été le bien-être social. Il y a des gens qui ont zéro coussin de sécurité. C'est un peu la question que je voudrais aborder avec vous ce matin. Est-ce que vous en avez un, vous, de coussin de sécurité, si jamais vous arrivez une maladie? Ou si vous en avez une en ce moment, comment vous arrangez? Marc-Alexandre Gaudreau est avec nous. Bonjour, Monsieur Gaudreau.
Bonjour.
Je pense que ce que je viens de décrire, ça résume un peu votre situation. Vous avez eu un diagnostic très jeune. C'était il y a 10 ans. Vous avez 29 ans aujourd'hui. Vous avez été diagnostiqué à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, vous travailliez comme carrossier au moment de votre diagnostic. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, Marc-Alexandre?
Au moment de mon diagnostic, j'allais encore à l'école pour finir mes études puis être justement carrossier.
Donc, ça a été un coup, c'est un choc incroyable quand on apprend ça à même pas 20 ans. Hein.
Ah non, puis c'est du jour au lendemain, je veux dire, la veille, je jouais au hockey, je jouais tous les sports quand j'étais un petit enfant, je joue normalement.
Oui. Là, à partir du moment où vous avez eu le diagnostic jusqu'à aujourd'hui, pardon, comment vous vous êtes arrangé financièrement?
Financièrement, j'ai eu la malchance puis la chance d'avoir un héritage de mon père qui est décédé en 2011. Puis c'est avant ça que je travaillais un peu. Donc j'ai pas travaillé assez pour avoir l'invalidité sociale, je pense qu'il appelle.
Ouais.
Puis après ça, c'est ça. J'ai eu de l'aide sociale, puis on m'a coupé quand que j'ai voulu emménager, puis être honnête, puis emménager avec ma copine. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a le monde qui sont sur l'aide sociale normale, puis qu'ils soient, mettons, malades. Je veux dire, OK, leurs conjoints peuvent peut-être être un coussin pour eux. Mais quand tu as un cancer incurable, tu sais que tu ne travailleras plus comme jamais.
Oui, 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 non, mais c'est sûr. Et là, dans le fond, ce que vous trouvez comme injuste, c'est le fait que parce que vous êtes en couple et que vous avez habité avec votre conjointe et votre fils, mais là, qu'on vous coupe tout et qu'on considère qu'elle doit absolument tout payer pour vous et que son salaire de 40 000 $ doit convenir pour les deux, incluant tous les coûts qui sont reliés, j'imagine, au fait que vous avez un cancer incurable au cerveau, là.
Exact. Puis on a fait beaucoup de démarches, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis un moment donné, c'est ma conjointe qui est allée au bureau de l'aide sociale. Puis elle a demandé des renseignements à la dame qui était là. Et la dame a répondu, ben c'est à toi de ne pas sortir avec une personne malade.
Oh mon Dieu, êtes-vous sérieux?
Ouais, ouais. Puis à partir de là, ça a comme fait, bon, OK, j'ai passé à Denis Lévesque.
Ouais.
Parce que j'ai eu comme vraiment des pensées noires, là. Parce que quand tu vis au crochet de quelqu'un, puis que t'es un homme, puis que t'es habitué de travailler, puis de pouvoir forcer, puis de pouvoir faire les choses normalement. Puis après ça, tomber sans le sou et de vivre en plus au crochet de quelqu'un qui mérite pas de payer pour une autre personne, c'est, je trouve ça injuste.
Mm.
Puis je trouve ça même, comment je pourrais dire, inhumain. C'est inhumain de faire ça, là, de couper quelqu'un qui peut plus travailler, puis qu'il ne pourra plus travailler, même dans l'avenir, il ne pourra plus travailler.
Ouais. Vous, on vous a donné une durée de vie, Marc Alexandre?
Pas encore, mais j'ai fait des tests, puis on m'a dit qu'il fallait me suivre de plus près, là, pour l'instant. Donc, deux cancers au cerveau, on s'entend que c'est pas une grippe. Là.
Non, tout à fait.
Puis je prends 16 pilules, 15 pilules par jour, puis c'est pas des aspirines. Là. J'ai pris des notes sur un papier parce que les pilules me font oublier les mots. Puis,
Non, vous pourrez plus jamais travailler. Là. Vous avez des contraintes sévères à l'emploi.
Ouais.
Ouais, avec moi, je ne sais pas si vous la connaissez, Marie-Hélène Dubé, c'est l'instigatrice de la campagne 15 semaines, c'est pas assez. Marie-Hélène était déjà venue à notre émission il y a plusieurs années. Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Marie-Hélène a lancé cette campagne il y a 10 ans, en fait, au printemps 2009, parce que vous avez vécu, en fait, une situation un peu similaire, Marie-Hélène.
Oui, mais moi, j'ai été touchée à 3 reprises par le cancer, puis à chaque fois, j'ai perdu mon emploi, puis j'ai dû composer avec le 15 semaines qui était nettement insuffisant. Là. Donc, c'est suite à ça que j'avais entamé ces démarches-là quand j'avais découvert que cette loi-là, en fait, était inchangée depuis 1971, puis ça ne correspondait plus du tout là, à notre réalité actuelle.
Vous avez même fait une pétition qui a eu plus de 600 000 noms.
Oui, tout à fait.
600 000, c'est impressionnant.
600 000, c'est vraiment très, très gros là, dans l'histoire du Canada. Puis il y a eu 7 projets de loi, de nombreuses promesses politiques. Et malgré le consensus, on attend toujours que le gouvernement passe à l'action pour une raison absolument inconnue. Ce qui fait actuellement aucun sens. En 2019, là, on pousse les gens à la pauvreté, puis ils seront plus capables de sortir de cette situation-là alors qu'il n'aurait manqué que quelques semaines pour faire le pont et leur permettre de reprendre leur place de citoyen actif. C'est vraiment un non-sens.
Vous, vous dites dans votre campagne 15 semaines pour guérir, c'est pas assez. En cas de maladie, vous recevez 15 semaines de prestations alors qu'en moyenne, il faut compter 50 semaines
oui.
pour passer à travers de la maladie. Ça, c'est presque un an, là.
Oui, c'est presque un an. Donc
on peut dire c'est un an. Là.
Oui, oui, on peut... Environ. Donc, on le voit que c'est nettement insuffisant. Là. C'est ce qui fait que, finalement, toute la société s'appauvrit parce que ça a beaucoup de conséquences. Puis, on envoie des gens à l'aide sociale qui, techniquement, n'ont pas du tout d'affaires là, mais qui ne seront plus capables d'en sortir. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de laisser la loi telle qu'elle est présentement en termes de surcharge économique et tout ça que de l'amender parce qu'on parle d'un programme qui est complètement autofinancé.
Mmh. Comment ça va, la santé, vous?
Ça va bien. C'est stable.
C'est stable, mais
oui,
vous avez toujours...
Oui, il y a toujours un petit quelque chose, mais c'est surveillé, puis là, ça bouge pas. Donc, on garde ça comme ça.
C'était un cancer, vous aussi, de
oui.
la glande thyroïde?
Oui, qui s'est étendu au ganglion. Là, ça a été ça, surtout le gros du problème par la suite.
Donc, êtes-vous en rémission ou vous êtes quand même...
C'est contrôlé, c'est un état qui est contrôlé.
Vous garder le moral.
Ben oui.
Il faut. Vous battez pour les autres.
Il faut. Ben oui, c'est ça.
Avec nous également, Catherine Faneuve, qui a 29 ans. Et l'an dernier, Catherine a appris qu'elle avait un lymphome de Hodgkin.
Hodgkin,
c'est oui. Ça. À l'époque, vous étiez contractuelle à CSDM, mm-hmm. À temps plein. Qu'est-ce que ça a changé, ce diagnostic?
Ben, ça a changé pas mal toute ma vie, en fait. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais aux études, puis je prenais aussi des contrats à la CSDM. Puis dans le fond, ben j'ai dû arrêter mes études, arrêter de travailler.
Et puis, à cause des traitements, sans
doute.
Oui,
à cause
aussi,
des traitements. Hein, ouais. Puis au début, mes traitements étaient censés durer 6 mois. Puis finalement, dans le fond, mon premier traitement, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Puis, donc, ça s'est étiré sur une plus longue période. Ouais. J'ai dû changer de traitement, un traitement vraiment plus difficile. Puis, je devais recevoir aussi une greffe. Donc, ça veut dire que tu es hospitalisé pendant un mois minimum. Puis après, puisque ton système immunitaire est comme vraiment affaibli. T'es comme un bébé naissant. Ouais. Donc, tu perds tous tes vaccins, toute ton immunité, t'as plus rien. Donc, après ça, ben t'es aussi isolé parce que tu peux pas retourner dans le monde parce que c'est... Ben, dans le monde. Tu peux pas retourner à une vie normale avant un petit bout parce que c'est ça, c'est trop dangereux d'attraper tes infections.
Pour ton système immunitaire, c'est ça?
Oui.
Exactement. Là, aujourd'hui, votre état de santé?
Ça va. Je suis en rémission. C'est sûr que je suis encore en traitement, donc j'ai été de traitement de maintien aux 3 semaines. C'est pas de la chimio, c'est un anticorps monoclonal que je reçois aux 3 semaines à l'hôpital. Donc c'est moins invalidant, là, c'est sûr, mais c'est quand même c'est pendant 1 an, donc je perds deux jours. On sait que le système québécois de santé, l'attente, elle est là. Même si je me compte vraiment chanceuse, j'ai vraiment des bons médecins qui sont avec moi et je suis chanceuse d'avoir les soins que je reçois. Mais on s'entend que quand tu as un rendez-vous à l'hôpital, il s'est dit là à midi, il y a de fortes chances que ça soit retardé de 2 heures au moins. Fait que tu perds ta journée, en fait. Puis mon traitement aussi, vu que c'est un traitement qui est très coûteux, mais à chaque fois que je vais à l'hôpital, le pharmacien ne va pas le préparer tant que qu'il n'y a pas la confirmation que je suis bien à la chaise de chimio. Donc, c'est encore une fois, c'est un traitement de 30 minutes qui peut parfois prendre 2h30 parce que encore une fois, c'est des journées perdues que je... Là, je viens de recommencer à travailler, de faire de la suppléance à l'école où je travaillais quand c'est arrivé. Fait que c'est encore une fois, on est pénalisé.
Ouais. Vous avez dû retourner vivre chez vos parents, même,
oui,
carrément.
Oui, j'ai dû retourner vivre chez mes parents, mais pendant ce temps-là, je devais quand même payer mon loyer parce que j'étais avec des colocs. Donc, moi, je ne voulais pas laisser mes colocataires dans le trouble. Donc, moi, je devais quand même payer mon loyer. Donc, c'est mes parents qui ont subvenu à mes besoins pendant tout ce temps-là. Puis
Et en ce moment,
ben là, mes parents m'aident encore, évidemment. Là. Mais puisque je suis retournée sur le marché du travail, je commence à m'en sortir un peu. Mais c'est à cause de mes parents. Ouais. Si mes parents n'avaient pas eu les moyens, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Ouais. 15 semaines, quand ça dure 1 an... Il y a une incongruité, là, ça marche pas. Là.
C'est fou, là, ces 3 histoires qu'on vous présente. Là. Et Marc-Alexandre Gaudreau, quand vous entendez les histoires de Marie-Hélène Dubé, de Catherine Faneuf, est-ce que vous vous sentez un peu moins seule?
Oui, puis dans un sens, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui me disent je suis dans la même situation que toi.
Exact.
C'est pas tout à fait dans le même sens, mais je comprends puis je compatis avec eux.
Ouais. Mais regardez, j'ai quelqu'un qui m'écrit à l'instant, Sylvie, qui me dit qu'elle est dans la même situation que vous et que les autres invités. Pas la même maladie, mais tout de même, je suis invalide depuis 2005. J'ai tout perdu. Exact. J'étais coiffeuse, serveuse, j'ai 2 enfants, j'ai perdu mon conjoint. Ça, c'est l'eau de bout plate, là. C'est que 80% des gens qui passent à travers la maladie ou qui ont une maladie, qui reçoivent un diagnostic, le conjoint prend ses 2 jambes à son cou puis s'en va, le conjoint ou la conjointe. Mais c'est très difficile de passer à travers la maladie pour un proche aussi. Puis bon, C'est correct, là. On peut à la rigueur comprendre. On aimerait plus d'empathie, mais c'est un fait. C'est à peu près 80 % des gens là, qui aussi perdent leur couple. Donc, Sylvie, elle dit qu'elle a dû laisser la garde d'un de ses enfants au père. Elle dit « Depuis, je suis devenue seule et pauvre. Et personne ne semble pouvoir m'aider sans que je sois pénalisée. C'est carrément inhumain. » C'est ce que vous disiez, Marc-Alexandre. Qu'est-ce que vous souhaitez, avant que je vous laisse aller, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe au gouvernement?
Pour de vrai, je pense que les personnes qui siègent ont le pouvoir de faire changer des choses. Puis tout le monde me dit à la place, t'aurais dû crosser le système.
Mentir, pas dire que vous étiez que vous habitiez mentir, avec une conjointe.
Mais je suis toujours en train de quêter. Ouais. Je me sens comme un itinérant, dans le fond, comme une personne délaissée. Puis j'ai la chance d'avoir une conjointe qui ne m'a pas encore quitté. Puis d'avoir un enfant qui est en santé. Puis je laisse ma vie, dans le fond, entre les mains du gouvernement et des personnes qui peuvent changer cette situation-là.
Oui. Je sens beaucoup de détresse et de désarroi dans votre voix, Marc-Alexandre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre état de santé. Merci à vous, Marc-Alexandre Gaudreau nous parlait. Il souffre d'un cancer incurable au cerveau. Il a 29 ans et zéro aide du gouvernement. Si c'était pas de sa conjointe qui fait 40 000 $ par année, il dit qu'il se sent comme un itinérant, là. Ben, il serait peut-être un itinérant si elle était pas là. C'est pour ça qu'il dit j'ai la chance d'être avec quelqu'un. Imaginez tout ce monde qui est tout seul au Québec. Je sais que ça vous touche beaucoup. Vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. On va essayer de voir comment, de votre côté, la maladie vous a appauvri ou si vous craignez de ne pas avoir ce filet de sécurité pour être capable d'y faire face. À tout de suite. On a Julie qui est avec nous. Bonjour, Julie.
Bonjour, Isabelle. Votre sujet me touche énormément parce que moi, mon mari vient de décéder il y a 3 mois, 49 ans, en attente d'un cœur et d'un foie qu'il n'a pas réussi à avoir. Et nous étions dans la rue, ma chère Isabelle, dans la rue avec 3 adolescents. On est allé à l'aide sociale. On s'est rendu jusque-là pour nous faire dire, ma chère madame, vous avez... un petit placement pour vos études de vos enfants. Donc, liquider cet argent-là,
ouais.
Puis vous reviendrez nous voir. Mais on était pénalisés parce qu'on avait une voiture, moi, je travaillais à temps partiel. La dernière année, j'ai été aidante naturelle, donc je travaillais plus ou moins. Puis mon mari, là, 49 ans, là, il est plus mort d'anxiété et d'angoisse de nous laisser dans le trouble comme ça que de sa maladie. Il est parti dans l'angoisse parce qu'on était dans la rue.
Épouvantable.
Dans la rue. Ouais. Puis quand je suis allée à l'aide sociale, ma chère Isabelle, le bout du bout, mon mari avait un rapport médical comme quoi lui, il ne pouvait pas travailler, hein, il était en attente. Mais moi, je leur disais que j'avais un travail avec un papier du médecin comme quoi je pouvais travailler seulement qu'à temps partiel parce que je devais l'aider à aller à la dialyse 3 fois semaine. On me dit, mais machin, madame, si vous embarquez sur l'aide sociale, là, vous devez être apte à venir suivre des cours. Des cours de quoi, madame? Ben, des cours pour faire des entrevues pour un emploi.
Ouais. Il faut
madame,
démontrer.
J'ai un emploi, là, moi, là. Je cherche pas un emploi. Ah, faut venir faire des cours, madame.
Oui, c'est ça. Ouais. Et il faut être disponible.
Il faut être disponible,
Julie, pour aller même accepter un emploi qui serait pas forcément dans votre communauté, là. Il faut accepter.
Oui, puis je vous dis, Isabelle, en plus, il y avait de la dialyse 3 fois semaine. Avec les papiers du médecin, on devait payer le transport. Quand t'en as pas de sous pour manger avec tes 3 enfants, tu dois aller se solliciter des organismes. En plus, il fallait payer le transport pour qu'ils se rendent. Nous, on habite à Sainte-Thérèse. Il fallait payer le transport pour qu'il y ait 3 fois semaine à Saint-Jérôme pour la dialyse. S'il manquait une dialyse, il mourait. Donc, il fallait payer ça. C'est des sous. Puis, comme tu dis, là, on s'appauvrit. C'est des dépenses de plus. J'ai écrit des lettres, je suis allée solliciter les organismes, je suis allée chercher de la nourriture, je suis allée chercher des vêtements pour mes enfants. Puis aujourd'hui, il est décédé il y a 3 mois. Puis si c'était pas de mon père, j'avais aucun endroit où aller habiter. Mon père m'aide pour 1 an pour que je puisse garder ma maison parce qu'on n'était pas en état de déménager. Puis ma maison, dans 1 an, je la perds.
Parce que vous ne serez pas capable de payer, c'est ça?
Non, je ne suis pas capable, puis je la perds, puis je ne suis pas capable de me payer un logement non plus avec trois beaux ados. J'ai pris tout l'argent pour leur étude. C'est le peu que j'avais ramassé. J'étais une maman à la maison les premiers temps. Là, je travaillais. J'avais ramassé ces sous-là pour leur payer les études. Mmh. Puis là, j'ai tout flobé cet argent-là. Puis là, on est à la merci du gouvernement. Puis quand on va chercher
de l'aide sociale... Pas au casino, on s'entend, Julie. Hein?
C'est non, pas parce non, que... non, 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 ouais. Non. Cet argent-là pour survivre, Isabelle, parce qu'on survit encore. Puis mes enfants sont restés avec des séquelles de voir leur papa pleurer parce que fallait que maman allait chercher de la nourriture dans des organismes. Même lui, il n'était pas capable de se déplacer. Quand on arrive à l'aide sociale, on s'est parlé comme j'ai eu des bonnes madames à qui j'ai parlé au gouvernement. Mais à l'aide sociale dans mon quartier, là, me faire rabaisser, madame, me faire parler, là. Si j'aurais pu, j'aurais fait des plaintes, me faire parler comme ça, me faire rabaisser, ça n'a aucun sens.
Vous savez qu'il y a de plus en plus de gens, j'en parlais avec mes invités, Catherine Faneuf et Marie-Hélène Dubé, en studio, là, pendant la pause. Il y a de plus en plus de gens, Catherine nous le rappelait, qui font des GoFundMe. Avez-vous pensé à ça?
Oui, on le fait, on le fait, madame, on le fait. Mais je veux dire, oui, ça nous aide pour quelques mois. On a fait des GoFundMe, on a fait des soupers spaghettis. Ça, ça a été une réussite. Mais c'est toujours, tu sais, les mêmes personnes. J'ai sollicité des artistes, j'ai sollicité des gens qui avaient beaucoup d'argent dans le domaine des finances, mais ça, j'ai pas eu de réponse. Mais c'est les amis, on n'a pas vraiment de famille, là, à part mon père, mais c'est les amis qui ont toujours été là pour
ça, nous c'est aider. Super. Ça, au moins, c'est ce côté-là, au moins, c'est bien, Julie. Vous avez ça. Mais tout le bout du gouvernement.
Mais quand la personne est malade, puis elle voit sa famille, elle va partir, puis elle voit qu'elle va laisser sa famille. Puis mon mari, là, je me suis fait dire par la dame du gouvernement, si vous étiez une grande madame, vous auriez au moins une carte pour vous habiller l'hiver, une carte de crédit pour les enfants l'hiver, du linge d'hiver, du linge d'été. Mais j'avais le goût, Isabelle, de prendre un sac à vidange là, avec du linge, là, c'est tout ce qui me restait, puis de m'en aller à, comme immigrante rentrante, c'est plate à dire, mais j'aurais eu des avantages que j'aurais pas en étant québécoise et ayant payé nos impôts tout le temps, jamais fraudé le gouvernement. C'est nos enfants vivent ça, puis ça laisse des grosses séquelles. Je peux vous le dire que ça laisse des séquelles.
Julie, je compatis beaucoup tout ce que vous vivez, puis sincèrement, c'est déjà assez difficile de perdre un proche. Si en plus on doit faire face à des ennuis financiers, c'est vraiment pas drôle.
Oui, puis je veux dire, j'en profite parce que moi, ça faisait 26 ans que j'étais avec mon mari, puis je veux dire merci à mon papa qui nous aide aujourd'hui parce que sans lui, là, je ne sais pas où je serai, Isabelle, puis je ne veux pas le savoir dans un an où je vais être. Ouais. Mais je continue. Merci.
Merci à vous, Julie. Merci pour ces témoignages. Tenez-nous au courant, Julie, de ce que vous faites. C'est incroyable, ce genre d'histoire. Moi, ça m'arrache le cœur. C'est pas normal. Tu sais, puis quand je lui dis, là, on a payé nos impôts toute notre vie. Tu sais, il y en a qui font de l'évasion fiscale puis qui ne payent pas leur bout d'impôts. Puis il me semble qu'ils sont moins achaliques du monde. En tout cas, on les dénigre moins que des gens, des travailleurs qui ne demandent jamais rien à personne, qui... Mais quand vient le temps d'être malade, ben là, c'est. En plus, t'es mal traité, entre guillemets, par des fonctionnaires qui ont pas d'empathie. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, là, mais du monde compréhensif. À moins d'avoir un proche qui a une maladie puis qui nous permet de compatir, hein, d'avoir une empathie parce qu'on vit ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas, là, cette compréhension-là du problème. Nos lignes sont pleines, bien sûr, parce que c'est normal. C'est un problème que vivent beaucoup, beaucoup de Québécois. Je vous pose la question, est-ce que vous avez un coussin de sécurité en ce moment, là, si vous aviez un diagnostic qui vous tombait dessus, là, en cas de maladie? Qu'est-ce qui vous arriverait dans la vie? Évidemment, il y a beaucoup de gens qui le vivent en ce moment, là, qui n'ont pas besoin de se l'imaginer. Ils sont les deux pieds dedans. 514-790-9850 et sans frais partout au Québec. 1-866-790-9850. Je vous demande si vous avez un filet de sécurité, un coussin de sécurité en cas de maladie grave. Alain, je pense que vous êtes sous traitement de dialyse en ce moment.
Oui, je suis en dialyse. Et puis, j'ai quand même pas trop un gros coussin, là, mettons, peut-être un 2-3 mois, pas plus.
Ouais.
Ça veut dire que moi, je fais de la dialyse à la maison, tous les jours. Et puis, parce que j'ai les reins de 33 ans, j'ai été greffé. Et puis là, se retomber en dialyse, ça fait un an et demi. Si je ne fais pas mon niveau de dialyse, ben là, je ne pourrais plus travailler parce que je vais tout perdre. Parce que moi, je travaille, je suis camionneur, mais je fais de la dialyse dans mon camion.
Oh mon Dieu! On peut faire ça.
Ouais. Ben oui, on traîne la machine avec nos solutés. Puis là, ben,
Hey, vous voulez, hein? Vous voulez?
Ouais.
Vous n'avez pas besoin d'une prime au travail, vous, pour vous faire travailler, hein?
Non, c'est ça. Je pourrais rester à la maison puis rien faire, mais je trouve que ce serait plus long.
Ouais. Non,
ça
mais
passerait
c'est
beaucoup
ça.
Moins vite. Au moins, là, ça passe plus vite. Mais c'est sûr que c'est pas facile.
Ouais.
Et puis, je suis tout le temps fatigué.
C'est sûr,
c'est sûr que je travaille moins. Les rendez-vous à l'hôpital, puis, c'est sûr. Ouais. Mais
merci.
Je ferais des mots d'y aller, je ferais ça.
Ben écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, Alain. Merci beaucoup. On parlait des primes, justement, avec les primes aux médecins, dont les dernières, vous avez su ça, 15 $ de plus par patient que les médecins de famille vont inscrire. Pas forcément voir, mais qu'ils vont inscrire. Tu sais, à un moment donné, on a donné 7 milliards aux médecins, généralistes et spécialistes. On a consenti des généreuses offres, quand même, d'augmentation de salaire. Sans en voir, d'ailleurs, la transformation dans le réseau de la santé. On se souvenait de ça avec mes invités pendant la pause, Marie-Hélène Dubé et Catherine Faneuf. Marie-Hélène a fait des calculs, d'ailleurs, pour savoir combien ça coûterait, disons, de... Hein, Marie, tu expliques un peu aux auditeurs.
Oui, bien, en fait, c'est pas mes calculs. Là. C'est le directeur parlementaire du budget qui a fait une étude là, au mois d'avril 2019, donc c'est très, très récent, sur ce que ça coûterait de demander les semaines de prestation de 15 à 50 semaines, parce que c'est toujours ce qui a été demandé là, dans les différents projets de loi. Il faut se rappeler que c'est un régime qui est entièrement autofinancé par les travailleurs. Hein. Puis là, d'ailleurs, la plupart des gens qui sont touchés, ça a toujours été des gens super vaillants, là, qui ont toujours travaillé, comme tu disais tantôt. On parle pour augmenter ces prestations-là puis permettre aux gens de se soigner d'une augmentation de 6 sous par tranche de 100 $ de rémunération assurable. Donc, si on fait le calcul, exemple, quelqu'un qui gagnerait 800 $ par semaine, ça fait 48 sous par semaine. Donc, ça fait 24,96 par année. OK, donc ça, c'est le coût. Ça coûterait 1 milliard, en fait, pour amender ça pour tout le monde.
Puis si... Donc, chaque travailleur paierait 25 $ de plus par année.
C'est ça. Puis on permettrait à tout le monde de soigner dans la dignité. Tu sais. Puis si on regarde...
Et pourquoi ça, on le... Parce que moi, tu me
ben,
demandes.
C'est la question.
Je suis bien d'accord. Je pense que les auditeurs seraient d'accord. Je pourrais vous demander, ça vous tente-tu 25 $ de plus?
Ben oui.
Puis on permet aux gens malades de pouvoir avoir 50 semaines de prestations couvertes.
Puis il faut comprendre, actuellement, là, regarde, j'ai un rapport de l'Agence de la santé publique, là, le fardeau économique des inégalités socio-économiques. Les différences par l'état de santé causées par le revenu, ça entraîne une surcharge sur le système de santé de 6,2 millions de dollars par année. Là, on parle juste d'une surcharge. Puis ça, c'est pas 6,2 milliards.
Ouais.
C'est pas du tout autofinancé. Donc, la loi, les gens doivent comprendre que la loi, comme elle est actuellement, ça coûte très, très cher. On paye actuellement vraiment
donc,
cher.
Donc, tu es en train, en plus, de nous dire, on économiserait.
Mais oui. Donc, il faut que ça soit changé. Puis là, c'est ça. Il faut se poser des questions sur pourquoi ce n'est pas amendé encore à l'heure actuelle. C'est la question à laquelle je ne possède aucune réponse, malgré 10 ans de démarches intensives, malgré 7 projets de loi. On a un gouvernement.
Est-ce que ça se peut que ce soit le lobby des assureurs privés qui
fasse question, la question se pose parce que il faut, si on regarde, toutes les autres prestations spéciales ont été amendées, puis je suis totalement en faveur de ça, le congé de ton patient, les proches aidants, etc. Mais pourquoi on a une loi inchangée depuis 1971 pour les prestations de maladie qui est tout à fait inadéquate? On a 7 projets de loi. On a des partis politiques qui ont toujours fait consensus à travers mes différentes démarches pour dire qu'on était d'accord. On a un ministre qui nous a dit en 2016 publiquement que ça serait amendé très rapidement et ce n'est pas encore fait. Et la réponse qu'on a, c'est toujours « Ah, mais ce n'est pas prévu dans notre budget. » Bien, je suis désolée.
Ça, c'est au fédéral, ça.
Oui, c'est fédéral, on n'a pas le choix, mais je suis désolée, mais ça ne fait pas partie de votre budget. C'est un programme qui est entièrement autofinancé. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue à laisser ça dans l'inertie? Comme tu l'as soulevé, est-ce un lobby? Il y a quelque chose. Donc, les gens, il faut se questionner puis il faut continuer à faire pression, justement. C'est pour ça que j'ai modifié ma campagne là, pour la mettre en ligne. Donc, les gens peuvent aller au 15semaines.ca puis remplir un formulaire. Ça va prendre 3 secondes. Vous avez une lettre qui est déjà écrite, qui résume le débat depuis 10 ans, qui leur demande d'agir. Cette lettre-là s'en va copie conforme à Justin Trudeau, au ministre Duclos, le ministre responsable, ainsi qu'au chef d'opposition. Donc, c'est quelque chose de très puissant. Ça prend quelques secondes à faire. Donc,
mais tu sais, il y a déjà plus de 600 000 personnes qui ont signé la pétition, puis il n'y a rien qui fait.
C'est l'incompréhension. C'est une incompréhension absolument fabuleuse. Là. Puis les réponses que j'obtiens, c'est complètement... On répond pas à cette
question. Peux-tu essayer d'amener ça au Bloc québécois pour que...
Oui, mais là, ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Mais à chaque fois, comme je dis, depuis 10 ans, en fait, j'ai travaillé avec tous les partis. Même à l'époque des conservateurs, il y avait des conservateurs qui m'ont aidé et tout ça. Donc,
là, il faut appeler Andrew Scheer, ça a l'air que...
Oui, bien, je lui ai parlé.
Ça a l'air qu'il est populaire.
C'est ça, je lui ai parlé l'année dernière. Mais tu sais, c'est ça, il faut voir. Puis après ça, ils sont toujours en faveur. Quand ils changent, puis ça, ils deviennent au pouvoir, mais là, on voit qu'il y a un ralentissement. Mais cette fois-là, ce ralentissement ne s'explique pas. Comment ça se fait? T'sais? Puis, on le voit, là, ça fait des gens, justement, qui vont se ramasser à l'aide sociale parce qu'ils vont devoir liquider tout ce qu'ils ont, qui vont rester des fois avec une condition précaire, puis ils ne pourront pas sortir de là. T'sais, donc, puis il y a une transmission intergénérationnelle au niveau des enfants. Donc, des fois, on va faire 3 générations de gens à l'aide sociale parce qu'il a manqué 20 semaines de chômage.
Exact.
C'est complètement absurde. Ouais. C'est absurde. Il n'y a aucun rationnel.
On sait que le chômage a ses limites après ça, l'aide sociale. Puis il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis syndiqué, c'est dans ma convention collective, j'ai une assurance emploi, une assurance santé, tant mieux. Mais c'est quand même plus de 60 % des gens aujourd'hui qui n'ont pas ça. Il y a à peu près 600 000 travailleurs autonomes au Québec qui n'ont pas de filet de sécurité, de coussins de sécurité, ça commence à faire beaucoup de monde qui ont rien vite, là.
Ça fait beaucoup, beaucoup de gens. Puis, il faut penser aussi, le cancer, maintenant, là, ça touche de plus en plus les jeunes.
Ouais.
Donc, qui dit jeune dit aussi emploi précaire et pas de convention, et etc. Donc,
Catherine, tu disais qu'il y avait une de tes amies aussi qui vit une situation de cancer, jeune, là.
Oui, puis elle, dans le fond, elle a plus droit aux prestations parce qu'elle vit aussi avec sa conjointe. Donc, en ce moment, c'est très difficile pour elle. Puis je connais beaucoup de jeunes qui ont eu le cancer puis qui vivent des situations précaires là. Puis c'est pas, tu sais, j'ai une amie à moi qui avait des économies quand elle a eu son diagnostic, puis à cause qu'elle avait des économies, elle pouvait pas recevoir de l'aide. Donc non, on te pénalise parce que tu as fait des économies.
Ouais.
Puis là tu dois prendre tes économies qui pourraient, tu sais, c'était pas prévu pour ça, on s'entend, là.
Non, c'est à fait.
C'est vraiment... C'est fâchant, là, vraiment.
Il y a vraiment une incohérence, tu sais. Puis depuis quelques années, on parle beaucoup de mourir dans la dignité, hein. C'est quelque chose qui fait un consensus. Mais comment ça se fait qu'on doit se soigner dans la médiocrité pour mourir dans la dignité? Pourquoi les gens ne peuvent pas aussi se soigner dans la dignité? Il y a vraiment, là, quelque chose... Et c'est un enjeu majeur. Ouais. Puis 1971, on s'entend que ça fait longtemps. Là.
On aurait dû régler ça. Écoute, on revient tout de suite après la pause avec d'autres commentaires d'auditeurs. Et si vous saviez le nombre de gens là, qui m'écrivent, là, ça rentre à l'appel, là, les témoignages de gens là, qui sont juste pas capables d'arriver quand ils tombent malades et qu'ils reçoivent des diagnostics. On comprend que 15 semaines de prestations après, c'est le néant. C'est un grand trou béant qui s'ouvre devant toi et tu ne fais que tomber dedans. J'ai connu des gens très près. Je vous parlais de mon amie Joanne Fontaine, qui pendant des années a dû, puis elle le dit dans les documentaires qu'on a fait avec elle, vous les avez sans doute vus. Joanne disait à quel point la maladie, le cancer, pendant 8 ans, l'avait appauvrie. Puis elle non plus, là, elle a dû prendre tous ses REER. Puis comme elle était avec un conjoint, elle avait même pas le droit à quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ça la situation des gens malades au Québec. C'est arrange-toi. Et ça devrait pas être ça. Il y a plein de gens qui m'écrivent qu'en Europe, on donne 2 fois plus que ce qu'on donne ici, qu'il y a des proches aidants qui reçoivent plus que la personne malade. Donc, même si, à la rigueur, le proche aidant, c'est très nouveau là, qu'il commence à avoir un peu de reconnaissance. Marie-Hélène Dubé, tu me disais, même en Russie, ils font mieux qu'ici.
Oui, au niveau des pays du G7, là, si on fait exception des États-Unis, ils donnent tous entre 1 an et 3 ans. Il n'y a pas de période d'attente et le pourcentage est beaucoup plus élevé.
Mais c'est parce qu'on a peur que les Québécois abusent, c'est ça, d'après toi? Qu'est-ce qu'ils font?
J'en ai aucune idée. Il y a eu une inertie. Là. En 71, c'était un progrès quand ils ont mis cette loi-là. Mais après ça, il y a une inertie depuis. Puis c'est triste parce que l'espérance de vie n'a jamais été aussi bonne et tout ça, mais il faut se donner le temps de guérir. Mm. C'est plus une fatalité nécessairement.
On a Edith avec nous. Bonjour Edith. Est-ce que vous vivez cette situation, c'est-à-dire vous êtes malade puis vous devez manger toutes vos économies pour payer toutes les dépenses?
Mais en fait, moi, c'est mon conjoint qui est décédé il y a 4 mois. Puis nous, on dit la chance, la malchance, c'était un cancer incurable. Donc, c'est un mélanome métastatique qui avait atteint le cerveau. Donc, son espérance de vie était d'un maximum de 2 ans. Donc, ce que nous, on a dû faire pour arriver, malgré tout ce qu'on avait déjà, là, c'est de faire une avance sur l'assurance vie.
Oui.
De mon conjoint. Donc, on a fait une avance sur l'assurance vie qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve quand même veuve avec 3 jeunes enfants. Mais là, je travaille à temps plein. J'ai arrêté de travailler un petit peu les funérailles, essayer de redresser ça, m'occuper des enfants. Puis après ça, c'est retour à temps plein tout de suite. Il y a le après aussi. sais. Mais nous, c'est ça, on n'avait pas le choix parce que sinon, c'est sûr qu'on a réduit le rythme de vie, hein. On a fait ce qu'on avait à faire. Mm. Il y a ça aussi, tu sais. Mais ça a été la façon que nous, on a trouvé. Puis encore là, on était chanceux parce que.
Ça fait 4 mois seulement, Edith. Comment vous allez? Comment ça va le moral?
Des jours que ça va, des jours que ça va moins bien. C'est les enfants. Ben, c'est les enfants. C'est difficile d'expliquer à l'enfant que papa ne reviendra pas. Ça a été très difficile. Puis c'est encore difficile pour eux. Ils ont 4 ans, 6 ans et 10 ans. Là.
Oh.
Donc, c'est ça. C'est...
ouais, merci de votre appel. Bonne chance, merci. J'ai envie de vous demander de laisser vos coordonnées à Normand, mon recherchiste, Edith, si ça vous ennuie pas. Merci beaucoup. Jacques est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, à 76 ans, j'ai dû faire un infarctus. Et puis, malheureusement, j'avais seulement 600 heures d'accumulé dans mon fond.
Mm-hmm.
Parce que j'avais comme arrêté de travailler. Puis là, ben, j'avais repris un petit travail, puis ça allait bien. Fait un infarctus. Alors, je me suis passé pendant seulement un mois, finalement, parce que mon docteur m'a autorisé à retourner au travail après ça, même si je conduis un véhicule lourd. Et puis, j'ai continué. Mais ce que je déplore, là, c'est que ce fonds-là, là, il appartient aux travailleurs et aux employeurs, il appartient pas au gouvernement.
Ouais.
C'est dégueulasse parce que c'est pourquoi que c'est pas les employeurs et les travailleurs qui gèrent leur fonds. C'est tout simplement injuste.
Ouais. C'est un très bon point que vous amenez, Jacques. Et je pense que c'est tout le débat de Marie-Hélène. Merci beaucoup de votre appel. C'est tout le débat de Marie-Hélène, le combat de Marie-Hélène Dubé depuis des années. Marie-Hélène, on rappelle aux gens, il y a cette campagne dont tu es l'instigatrice. 15 semaines, c'est pas assez. Lancée au printemps 2009. Donc là, on est plus que le printemps 2019, même si ça a l'air de l'automne, c'était aujourd'hui.
Oui, c'est
et c'est justement après avoir souffert d'un cancer de la glande thyroïde que tu as décidé de ça a été plus long que 15 semaines.
Mais oui, ça a été vraiment plus long que 15 semaines.
Et tu as perdu beaucoup d'argent. Je me souviens de nos premières entrevues, tu disais, moi, je suis en train de m'appauvrir. Là.
Je me suis vraiment appauvrie. Et moi, j'ai vécu ça 3 fois en plus. En fait, moi, la chance, entre guillemets, que j'ai eue, c'est que j'avais une maison qui était dans laquelle j'étais très avancée dans mon hypothèque. Donc, je l'ai tellement réhypothéquée au fil des années que j'avais plus d'hypothèques que quand je l'ai acheté.
Ouais, ben
donc, tu sais, c'est une
forme... Ça a été ton levier, mettons.
Ça a été mon levier, mais ça demeure une source d'endettement chronique. Même 10 ans plus tard, j'ai jamais rattrapé...
T'as jamais été capable de te refaire?
Parce que c'est tous les placements que t'as pas fait, c'est les revenus que t'as pas fait, c'est la fin de pension. T'as pas de... Mais maintenant, moi, je travaille à mon compte. Je suis toujours disponible pour donner des conférences. J'enseigne à l'occasion au collégial, mais ça a pas été facile parce que aussi, au niveau santé, mon énergie n'était pas toujours la même. Donc, c'était pas facile de reprendre quelque chose de façon vraiment régulière, là, avec un horaire fixe. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'enseignement, les conférences, puis essayer aussi. Parce que quand j'ai vu que ça se prolongeait, ce combat-là, hein, en fait, depuis 10 ans, donc je dois trouver des moyens aussi pour pouvoir le continuer. Il faut comprendre que je fais ça à mes frais aussi depuis 10 ans. Hein.
Fait que tu vis pas riche, mettons.
Non, je vis pas riche. Donc, c'est pour ça que je fais de plus en plus la promotion de conférences, en fait, que je donne. Je suis toujours disponible pour ça.
Et tu parles de quoi dans tes conférences?
Je parle beaucoup de résilience. Je parle de passer à l'action, de s'impliquer. C'est vraiment, là, je faisais des conférences en entreprise aussi. Les gens doivent s'impliquer parce que souvent, moi, je remarque ici, on se plaint parce que oui, on a plein d'enjeux sociaux, là, tout ça, mais souvent, les gens vont se plaindre, et etc. Puis à la fin de la journée, bien, c'est fini. T'sais, ils rentrent chez eux, ils
continuent la
TV. Ouais. C'est ça. Donc, mais c'est de le faire comme vraiment concrètement. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? De pousser les gens hors de leur zone de confort puis de trouver un enjeu qui vous tient à cœur. En fait, c'est pas obligé, t'sais, je dis toujours, vous n'êtes pas obligé de prendre une cause d'aussi grande envergure, mais chacun peut avoir sa cause, mais il faut le faire et pas juste en parler. Donc, passe à l'action.
Merci, Marie-Hélène Dubé. On rappelle donc le site 15semaines.ca.
Ça vous prend quelques secondes. Merci de partager, c'est très important.
Catherine Faneuf, prompt rétablissement, Catherine. Bonne chance dans ta vie, tu es toute jeune. J'espère que ta santé va te permettre de bien vivre. Et puis, on salue tous les parents du Québec qui aident leurs jeunes qui sont malades. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.